Chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Pêchez en Atlantique Nord-Est.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, arrivent à faire rimer C'est nouveau avec comment ? C'est déjà en promo ? Jusqu'au 27 mai, profitez de jusqu'à 15% de réduction sur la nouvelle gamme de fenêtres PVC et d'un financement 20 fois sans frais. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Offre de crédit affectée 20 fois sans frais, valable du 2 au 27 mai pour tout achat de 1500 à 15 000 euros. Après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Conditions sur lapaire.fr.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
RTL. RTL, il est 13h. Le journal inattendu de Max Boublil, 13h. Les titres de l'actualité.
Nathalie Renaud.
Une marche blanche cet après-midi à Châteauroux en hommage à Matisse, cet adolescent de 15 ans tué par un garçon du même âge. Entre 5 et 10 000 personnes sont attendues selon la préfecture. Les deux mises en examen, un adolescent de 15 ans et sa mère, sont de nationalité afghane, en situation régulière en France. Mais la famille de l'adolescent refuse toute récupération politique. Aucun dérapage ne sera toléré, a rappelé ce matin sur RTL le préfet de l'Indre. De la violence encore à Sevran, en Seine-Saint-Denis, un mort et trois blessés graves lors d'une fusillade la nuit dernière. À Toulouse, là aussi, un homme est décédé et un autre est en urgence absolue à la suite d'une fusillade au petit matin sur fond de trafic de stupéfiants. Alors que faire pour enrayer cette violence ? Eh bien, ce sera forcément l'un des thèmes du premier grand débat des élections européennes. Il aura lieu demain sur RTL avec nos confrères du Figaro, M6, Paris Première et LCP. Les 7 têtes de liste qui bénéficient des meilleures intentions de vote, Jordan Bardella, Valérie Rieyer, Raphaël Glucksmann, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal et Marie Toussaint seront interrogés entre midi et 14h en direct sur notre antenne. Du football, suite de la 32e journée de Ligue 1. 4 matchs aujourd'hui. Le Havre-Strasbourg à 15h, Monaco-Clermont à 17h, Metz-Rennes à 19h et puis Brest-Nantes à 21h. Un match à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro. Attention Max Boublil, dans le journal Inattendu, c'est la tradition, c'est vous qui nous donnez la météo.
Ah, mais maintenant tout de suite ?
Allez, c'est
alors,
parti.
J'ai toujours rêvé de présenter la météo, alors je vais essayer de le faire le mieux possible. Alors météo, une météo encore, je prends une voix de dame météo, de monsieur météo ou
pas ? Monsieur météo.
De monsieur météo. Une météo encore difficile aujourd'hui avec des nuages, des pluies et du vent sur une grande partie centrale du pays. Dans l'est et près de la Méditerranée, le soleil devrait tout de même se maintenir et puis les Hauts-de-France et la Normandie seront soumis à un régime d'averse alternant avec quelques éclaircies. Les températures iront de 13 degrés à 24 degrés de la Creuse à l'Ariège. Il fera 16 degrés à Paris, Caen et La Rochelle. 18 degrés à Nice, Bordeaux et Annecy. Bonne journée, sous de meilleurs auspices.
Alors
c'est moi
fou,
qui ai rajouté la bonne journée.
À chaque fois, nos invités prennent une voix très douce pour faire la météo. Mais je vous assure que Valérie Quintin,
ah ouais,
elle y va.
Elle balance.
Ah bah oui, elle balance.
Mais je vais pas
elle qui est fan de métal,
ouais,
elle balance.
Une météo encore difficile aujourd'hui, des nuages, de la pluie, du vent, une grande partie du pays. Non, ça marche moins.
Allez, bon, nous sommes toujours en direct avec vous, Max Boublil. Merci pour cette météo. Et nous sommes aussi en direct avec Steve de Tiancheux qui est avec vous. Dans le film,
il faut le présenter un
Neuilly
peu.
Poissy. On va le présenter.
Dans Les Misérables, magnifique mère dans Les Misérables, qui joue dans Fury à côté de Marina Foïs, vraiment un grand acteur qui nous a fait l'honneur d'être dans ce film.
Oh là là, Max.
Alors, dites-moi tous les deux, comment s'est-il déroulé ce film ? Parce que c'est un film choral où vous êtes extrêmement nombreux à l'écran. Je veux dire, il y a énormément de scènes où vous êtes nombreux. Est-ce que c'est facile à tourner un film collectif comme celui-là ?
Ça peut être très très difficile quand les acteurs commencent à mettre leur ego en avant. Ça peut être très très difficile. Mais là, sur ce film-là, franchement, Grégory a bien géré le bateau. Donc, tout le monde était opérationnel. Tout le monde a aimé le scénario. C'est vrai que quand on voit le scénario au début, on se dit on est sur un terrain assez glissant. Mais comme c'est de l'humour, et en plus ça se passe en prison, et on n'a pas souvent eu l'habitude d'avoir, d'avoir des comédiens en prison, donc c'est un gros challenge. Et sur le plateau, non, non, c'est un plateau rempli de générosité, hein, Max.
C'est vrai, franchement, c'était, et il a même été très généreux, Steve, parce qu'il y avait Malik Amraoui qui est le collègue de Steve en cellule, je dis collègue, hein, le roommate, le coloc. Et parfois, ils ont créé des scènes tous les deux, et souvent Steve lui donnait quelques répliques à lui, donc c'est vraiment, il y avait personne qui se mettait plus en avant,
l'avant qu'un autre.
Plutôt dans un truc.
C'est
de...
vraiment le film choral par excellence,
par excellence.
Où vous êtes donné
ouais,
la réplique. Steve, vous disiez que le terrain, le sujet pouvait être glissant. Effectivement, vous riez des religions, des différentes religions. Vous les caricaturez pas mal au début d'ailleurs. On va écouter un extrait puis on en parle.
Daniel, mon frère, comment tu vas ?
Pourquoi il t'appelle Daniel depuis tout à l'heure, là, faut que vous m'aidiez, Simon.
C'est l'heure de l'aquagym.
Quoi, l'aquagym ?
Les douches.
Si tu fais ce que je te dis dans un mois, t'es dehors. L'audience est ouverte. Monsieur le greffier.
Monsieur, bonjour.
Tu vas faire semblant de taper ? Vraiment comme ça ?
Frère, j'ai l'habitude des tribunaux, ok ?
Tu peux dire tribunaux, personne t'en voudra.
Alors au tout début de ces petits extraits successifs, on entend quelqu'un qui vous appelle Daniel, c'est votre vrai prénom, Max Boublil dans le film, vous êtes juif, mais quand vous arrivez en prison, vous faites passer pour Mustapha, musulman. Donc évidemment, ça crée des situations de quiproquo. Ce film, il a été tourné avant le conflit israélo-palestinien.
Ouais, le conflit israélo-palestinien, il date de très longtemps, plus de 60 ans.
Oui, le conflit du 7 octobre, je veux parler.
Oui, c'est vrai que depuis le 7 octobre, ça a pris un écho différent, puisque c'est un musulman, un juif, un catholique qui sont très, 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 très copains ensemble dans une cellule de prison. Donc ça a pris un nouvel écho, mais quand on l'a tourné, c'était juste avant le 7 octobre. Donc l'écho, ça a changé la perception. On a eu un petit peu peur au début.
Est-ce que vous pensez d'ailleurs que vous auriez pu le tourner de la même manière après le 7 octobre ?
Franchement, je pense que oui.
Steve ?
Oui, mais de toute façon, on a besoin du rire pour casser tout ce qui se passe. On a besoin de la comédie, donc oui. Je pense qu'on aurait pu le tourner même aujourd'hui.
Bien sûr, ouais. Ce rire ensemble, il fait du bien. Quand on fait les projos, on a fait une tournée un peu dans toute la France, vraiment, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien, mais pas qu'aux juifs et aux musulmans, ça fait du bien à tout le monde, à tous les Français, de voir une équipe comme ça s'entendre.
Ça va beaucoup plus loin que la religion. C'est que c'est la religion et les nationalités des gens, c'est des relations humaines, en fait, ce film. Ça parle de fraternité, c'est ça le plus important.
C'est une bande de potes. Pour moi, si tu mets la religion de côté, même si tu mets la prison de côté, pour moi, ce film, c'est un nouveau qui arrive dans un collège et qui, au début, va être bizuté et qui, petit à petit, va se faire copain. Mais pour moi, c'est comme une bande de copains de collège, presque.
Ouais, certes, mais effectivement, il y a quand même cet aspect religion.
Bien
et
sûr.
C'est pour ça que je voulais vous demander à vous deux, qui êtes des spécialistes de l'humour.
Et de la religion.
Et de la religion, allez. Eh bien, est-ce que c'est si facile de rire de tout dans cette période où on a l'impression que tout se cristallise et se polarise ? C'est ça, en fait, la question.
En tous les cas, nous, entre nous, Steve, tu me dis si t'es d'accord, on se retient pas pour se faire des vannes entre nous, des vannes terribles, même par moment.
Mais non, on se retient pas. Après, c'est comment les gens perçoivent le film, c'est leur manière d'accepter le rire ou pas de l'accepter. S'il y a des gens, j'espère qu'il reste encore des gens en France, des personnes qui ont une grande ouverture. Sinon, là, ça fait vraiment flipper, quoi.
Ce que je vous propose, vous connaissez Philippe Cabrivière, évidemment, oui. Sur RTL, Max Boublil. Écoutez ce qu'il disait dans une chronique en fin de semaine.
Pour un humoriste, l'antisémitisme, c'est toujours un sujet difficile. C'est un peu comme Kenji Girac avec un flingue.
Oui.
C'est un truc qu'il faut faire gaffe en le maniant. À tout moment, tu peux te tirer une balle dans le buffet.
Il a très bien résumé. Il est drôle, Philippe Cabrivière. Il est très, très drôle. Oui, c'est sûrement délicat de rire de tout. Nous, on y va. On va voir. Peut-être ça plaît, peut-être ça plaît pas. En tous les cas, dans les avant-premières, on est d'accord que ça fait vraiment du bien aux gens et ils ont envie de ça.
Bah oui, on peut pas. L'artiste ne peut pas se mettre de barrière, quoi. Il a certaines limites, mais on a vraiment besoin de rire de tout et de s'éclater sur tous les sujets, quoi.
En même temps, vous avez peut-être suivi l'histoire Guillaume Meurice, qui était sur France Inter et qui a été mise à pied pour des blagues.
Vous allez faire tous les sujets.
Qui était jugé pour... Ah, j'y reviens, hein, mince, je vous embête, là.
Mais Max, tu m'as ramené, Max, tu m'as envoyé dans quel Covid.
Allez, après on passe. Après on passera à autre chose. Après on passera à autre chose.
Excusez-moi, Nathalie, je viens de commencer ma carrière. Moi,
je vous embête, mais bon, quand même.
L'interview, tu tombes ou tu passes. Tu passes, ta carrière continue. Si tu tombes, c'est terminé.
Non, mais...
Oh, je rigole.
Non, mais il y a quand même des moments où on se dit attention. Enfin, voilà.
Je vais vous dire sur des affaires comme ça. Moi, il m'est arrivé. Après, je te laisserai répondre, Steve. Mais moi, il m'est arrivé dans tout au long de ma carrière de prendre beaucoup de bides, de faire des blagues qui tombaient à plat, de faire des blagues qui, si jamais elles blessaient, moi, je prends le parti de retirer une blague ou de m'excuser si ça blesse. J'ai jamais voulu blesser quelqu'un. Alors peut-être c'est pas courageux de ma part, mais moi quand ça blesse, et ben quand tu fais une mauvaise blague, et Dieu sait que j'en ai fait tout au long de ma carrière, elle est jonchée de mauvaises blagues. Si ça blesse, si ça machin, je vais m'excuser ou je vais la retirer ou je vais passer à autre chose. Si j'enfonce encore et je la refais derrière, c'est quelque part, il y a un côté de provoquer la foudre, quoi.
Alors, on va vous faire écouter un truc, vous allez nous dire bonne blague ou mauvaise blague.
Il faut arrêter de dire que les noirs sentent mauvais. C'est juste une odeur différente de toi et moi. Il faut arrêter de dire que les juifs n'aiment que l'argent. Ils aiment aussi la Mastercard et la Visa. Il faut arrêter de dire que les arabes sont des voleurs. Parfois ils ne font qu'emprunter et le rendre au commissariat. Il faut arrêter avec toutes ces idées-là. Parce qu'aujourd'hui on est tous ensemble dans le même combat. Et ce soir, tenons-nous la main. Ne faisons plus qu'un contre les Chinois.
Là, on a la totale. Tout le monde en prend pour son grade.
Ça, l'humour, c'est de se charrier les uns les autres. Ça n'a jamais posé aucun problème avant. On se charrie.
En plus, si vous voulez avoir mon avis, vous demandez vraiment à la bonne personne. Je kiffe cet humour. Moi, je fais partie de l'humour vraiment de l'époque. Hein. La bonne franquette, les inconnus, Jean-Yann. Donc, vraiment, je kiffe cet humour. Non, mais moi, franchement, quand on vient dans un spectacle, c'est pour passer un bon moment. Oui. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens viennent dans un spectacle, on dirait ils sont plus trop réceptifs et ils sont juste là.
Oh, en même temps, les spectacles d'humour n'ont jamais rassemblé autant de gens, je crois. Hein. Franchement, les one-man shows, ça rassemble énormément de spectateurs.
Oui,
c'est
peut-être... Excuse-moi, allez-y.
Oui, c'est peut-être justement que les gens ont besoin d'évacuer un peu.
Bah, mais c'est ça. Mais si on n'est pas réceptif, si on vient pas pour s'éclater et on vient attendre qu'il y a une mauvaise phrase qui sort et boum, faut pas venir dans un spectacle.
Les noirs qui sentent mauvais, d'après Max Boublil et sa chanson, ça vous choque
elle
pas.
Elle te chauffe, Steve,
C'est superbe. De toute façon, dès que j'ai entendu ça là, j'appelle tout de suite SOS Racisme et Dominique Sopo. Max Boublil, t'es dans la merde, hein, je te le dis, je te lâche moi. C'est fini.
Eh ben franchement, merci d'avoir parlé avec nous de l'humour et de cette frontière qu'il faut savoir franchir, je crois, pour pouvoir faire rire.
Bah oui, mais bien sûr, mais entre nous, mais si vous saviez les vannes qu'on s'envoie, on se crève de vannes et les gens le sentent, quoi. Et les gens, ils sentent que c'est fait avec bienveillance et qu'il n'y a pas d'idée derrière. C'est surtout ça qui compte, ils sentent qu'il n'y a pas de malveillance derrière et qu'on a envie de se faire marrer. Et aujourd'hui, les gens ont envie de se marrer et les communautés ont envie de faire la paix. Voilà, s'il y a un message.
Bah oui, et surtout, dans le film, c'est ce qu'on ressent. Franchement, entre nous, on s'est vraiment éclaté, mais à fond. Et c'est pas un faux éclaté où on fait exprès. Non, c'est vraiment, on a pris du plaisir à tourner ensemble.
Eh bien, merci beaucoup, Steve Chencheux, d'avoir été avec nous et d'avoir parlé
merci
de ce film.
Nathalie.
Et puis, l'humour en général, ça n'était pas un traquenard. Vous avez bien fait d'être avec nous en direct dans le journal inattendu de Max Boublil.
Max, mon frère, je t'embrasse.
Mon frère, je te fais des bisous. On se voit demain.
Vous ouais, prendrez rendez-vous après l'émission.
Ok. Hein,
allez. Okay. On aurait pu se quitter un instant sur Chanson raciste, qui était le titre de votre chanson, mais on va plutôt écouter ça.
Oasis.
Alors ça, c'est toute votre culture. Hein.
Ah bah oui, Oasis, j'arrête, je veux pas dire nord-américaine, parce que là, c'est anglais.
Non, mais, c'est anglais.
Oasis, ouais, Blur, Nirvana, tout le rock des années 90, fin 90. Oui, c'est ma culture, c'est... Je me vois au lycée, voilà, avec les cheveux longs, en train d'essayer de faire du skate, d'acheter mes premiers scooters, fumer les premiers joints.
Ouh, aïe, aïe, attention.
Après, je me suis très vite arrêté, je vous rassure. Voilà, c'est une époque, la fin des années 90, c'est une époque bénie. C'est une époque où on riait beaucoup de tout avec tout le monde. Après, il y a eu la Coupe du Monde où tout d'un coup, on a eu un sentiment de fraternité qui était énorme. Et voilà, vivement qu'on revive des époques comme ça.
On l'a bien compris. Allez, on se quitte quelques instants sur ces notes d'Oasis. Et on revient pour parler de votre carrière, Max Boublil. À tout de suite.
Le journal inattendu de Max Boublil avec Nathalie Renaud sur RTL.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
RTL. Anthony Martin sur RTL. Laissez-vous tenter.
La romancière Virginie Grimaldi, une des plus lues en France, n'en finit pas de surprendre. Elle se confie en tête à tête. Les secrets de la toile monumentale d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Ce tableau vient d'être restauré et les révélations sont nombreuses. Et puis quelques jours après sa disparition, hommage à l'écrivain américain Paul Auster. Il y a 5 ans, il nous avait ouvert les portes de son bureau, là où il écrivait, chez lui, à New York. Laissez-vous tenter, c'est chaque dimanche à 9h15. Alors,
laissez-vous tenter. Le journal inattendu de Max Boublil
avec Nathalie Renoux sur RTL.
On fait la totale. Vous avez parlé de Blur, on met du Blur.
Ah, Blur, c'est trop bien. Eux, c'était les vrais mauvais garçons.
Alors, vous nous avez dit que vous aviez les cheveux longs quand vous étiez au lycée et vous rêviez déjà d'être acteur.
Ouais.
Acteur, vous l'êtes au cinéma, dans Neuilly-Poissy notamment, Mercredi. Vous l'êtes aussi sur scène.
Oui.
Avec un one-man show qui s'appelle Maximilien. Maximilien, c'est votre...
Oui, c'est mon vrai prénom.
C'est votre vrai prénom.
Il reste une date dans le sud et une date à Montréal, à l'Olympia de Montréal, fin mai. Je suis content d'aller outre-Atlantique. J'ai l'impression que c'est une tournée internationale, même s'il n'y a qu'une date. Et après, je vais sûrement tourner dans d'autres choses et je vais reprendre une pièce que je faisais avec Gérard Darmon et Clotilde Gouraud qui s'appelait Une situation délicate, qui a très bien fonctionné, que j'ai fait pendant 2 ans au théâtre. Et qui a été un énorme succès et voilà, et je vais la reprendre aussi et puis voilà.
Alors Maximilien Boublil,
c'est très bizarre, hein. Prénom d'empereur, nom de famille de dentiste, hein. C'est quand même très très, ça ne va pas ensemble.
Mais j'ai envie de vous appeler comme ça jusqu'à la fin de cette émission.
Non, personne ne m'a appelé avec
je ne vais pas vous faire cet affront. La scène pour vous, ça représente quoi? Est-ce que c'est très complémentaire du cinéma? Est-ce que vous pourriez vous en passer ou pas du tout?
La scène, ça permet de durer. Déjà, ça permet de, parce que des films, on n'en tourne pas tout le temps. Enfin, j'aimerais en tourner tout le temps, mais c'est pas forcément le cas. La scène, ça permet de continuer à travailler, de créer une espèce d'instaurer un truc avec son public, parce que quand on fait les tournées, c'est là qu'on va convaincre des gens.
Rencontrer physiquement les gens.
Mmh. Et cette base qu'on se fait avec la tournée, que ça soit la pièce ou le one-man show, va servir aussi de base pour des gens qui vont en salle, au cinéma. Donc c'est hyper important de mélanger les deux, parce que t'as une espèce de proximité avec le public qui tout d'un coup va te suivre, puis tu rencontres les gens que tu vois sur les réseaux sociaux qui t'écrivent. Moi j'adore, j'aimerais concilier les deux autant de temps qu'on me laissera le faire.
Est-ce que vous êtes un traqueux?
Je suis très... Alors, j'ai eu une époque, il y a 10 ans, où j'avais plus le trac sur scène. C'était, écoute, j'arrivais vraiment les mains dans les poches, je cartonnais, c'était facile pour moi et tout. Depuis que j'ai fait ce nouveau spectacle Maximilien, donc ça fait un an à peu près, 10 mois, j'ai retrouvé le trac. C'est-à-dire qu'au début, parfois, pendant les spectacles, pendant 10 minutes, 15 minutes, j'ai le trac, j'ai un peu la voix qui chevrotte, les mains qui tremblent, la bouche sèche. Et ça me... Oui, c'est, je redécouvre ça en vieillissant et c'est peut-être le vieil acteur qui se fane ou je sais pas, mais je redécouvre le trac. Et certains disent que c'est une énergie. Moi, je trouve que ça, c'est assez paralysant par moments. Alors moi, ce qui me sort du track sur scène quand je suis en one-man show, c'est d'aller faire les impros avec le public. Tout de suite, j'oublie mon track. Tout de suite, je suis à l'aise. Dès que je vais improviser avec le public, donc j'en fais pas mal au début pour me mettre à l'aise. Et après, je rentre gentiment dans le texte du spectacle.
Est-ce qu'il y a du track quand on tourne une scène au cinéma? Ou est-ce que pour le coup, le track n'est pas du tout le même?
Tu peux avoir du track, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même, déjà parce que tu peux te reprendre, parce que tu peux prendre un peu plus de temps, même si le cinéma est de moins en moins riche, donc le temps est de plus en plus compté. Tu peux avoir le trac d'être face à un acteur qui t'impressionne. Moi, par exemple, quand je suis face à Darmon, face à Chabas, ça peut m'impressionner. Je peux avoir un petit trac. Mais c'est pas pareil au cinéma, ça se gère beaucoup plus sur scène quand t'as un trac et que t'as une salle, je sais pas, de 600, 1000 personnes. Eh ben, il faut y aller, et si t'as le trac, bah, t'y vas, quoi qu'il, hein.
Alors, ce qui est marrant dans votre carrière, c'est que quand on regarde vos films, vous incarnez toujours, je trouve, le même type de personnages. Des espèces d'adolescents qui ont du mal à grandir, qui sont un peu ratés, comme là dans Neuilly-Poissy. C'est un restaurateur qui a quand même pas mal réussi, mais qui fait aussi beaucoup de bêtises. On a la même chose, l'oncle dans Le Nouveau, l'oncle un peu raté qui dort sur le canapé.
Que j'adore. Hein.
Voilà, moi aussi, que j'adore. Dans Play, vous avez raté votre histoire d'amour, vous essayez de la récupérer comme vous pouvez. Dans Prêt à tout, avec Aïssa Maïga, vous la draguez, mais pas forcément exactement comme il faut. Est-ce que vous avez envie de sortir de ce personnage-là?
Pas forcément. J'ai toujours, moi, tant que ce personnage, les gens ont encore envie de le voir, moi je m'éclate dans ce personnage, il me ressemble, c'est moi, je joue
moi. Et justement, est-ce que c'est
même
vous?
Même au théâtre, je jouais un peu moi, hein, dans la pièce face à Darmon. Oui, c'est un peu moi, ce personnage. Et moi, je trouve que c'est un peu mon clown, c'est un peu moi. De Funès, il faisait du De Funès. Bourville, il faisait du Bourville. Enfin, pour moi, quand t'as ton clown, quand t'as un truc qui te colle, qui est assez véridique et qui te... C'est bien. J'ai très peur du Ciao Pantin, vraiment. Vraiment, j'ai peur de ça, qui se transforme souvent en Ciao tout court. Je me dis la vérité, j'aime pas les acteurs comiques qui tout d'un coup se mettent des lunettes, se font pousser la barbe, froncent les sourcils et tout d'un coup font tout un film sérieux. Moi, ça, j'aime pas trop ça en fait. Moi, ces mecs-là, j'ai envie de les voir me faire rire.
D'accord, donc par exemple, alors je vais prendre un exemple.
Il y a des contre-exemples qui fonctionnent.
François Damiens, qui est quand même quelqu'un qui peut nous faire éclater de rire, qui a cumulé un certain nombre de rôles dramatiques.
Oui.
Ça vous charme pas?
Non, mais ça peut être charmant, pourquoi pas. Mais si t'as un clown, si t'as un truc qui fait rire, garde-le, c'est génial. S'il a rencontré un public à un moment, c'est comme faire des chansons comiques. Moi, sur scène, je fais des chansons comiques parce que ça a marché et que les gens aiment ça. Si à un moment, t'as rencontré le public sur quelque chose, il faut savoir le cultiver. Faut pas tout le temps faire la même chose, c'est sûr. Mais voilà, moi, j'ai...
Donc, on n'est pas prêt de vous voir dans un drôle dramatique?
Ça dépendra du prix. Non, mais je pense pas si on peut accepter. Après, c'est vrai que je vieillis. À un moment, il faut que je fasse des quarantenaires. Maintenant, je peux plus facilement faire les pères de famille. Avant, je faisais le jeune amant. Maintenant, je vais faire le père de famille. Enfin, j'espère.
Bon, de quel rôle est-ce que vous rêvez et comment vous voyez la suite de votre carrière? On va en parler dans un instant. C'est votre journal inattendu, Max Boublil.
Merci.
Le journal inattendu de Max Boublil.
Avec Nathalie Renoux sur RTL.
Bonjour, c'est Stéphane Rothenberg. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres à travers l'Asie du Sud-Est, c'est au cœur de la cité millénaire d'Hanoï que s'achève Pékin Express. Mais alors, qui remportera la grande finale?
Inédit, Pékin Express sur les traces du Tigre d'Or, la finale, c'est ce soir à 21h10 sur M6.
La Vie Claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dont nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La Vie Claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur lavieclaire.com. Pour votre santé, bougez plus.
Bonjour, c'est Natacha Calestrémé.
Et si le bonheur, l'épanouissement, la sérénité ne tenaient qu'à une chose? Trouver votre place.
Dans mon livre, je vous propose 22 protocoles concrets pour être enfin vous-même.
Trouver ma place, de Natacha Calestrémé, le livre Phénomène enfin en poche, chez HarperCollins Poche.
Le journal inattendu de Max Boublil,
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Quel bon goût musical j'ai.
C'est incroyable, Nirvana.
Ah non mais ça c'est incroyable. Smell Like Teen Spirit, c'est mes 11 ans. C'est incroyable, c'est un nouveau son qui arrive, c'est une manière, c'est le garage, c'est eux qui ont inventé le garage. J'avais envie de partir à Seattle, voilà, les cheveux longs toujours, hein, la guitare, c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre la guitare. C'était le poète maudit, en même temps il était beau, en même temps il était sale, en même temps, enfin je sais pas, c'est et puis quel tube quoi.
En fait, je remarque un truc dans vos choix musicaux.
Ouais.
C'est que tout ça, c'est plein de nostalgie. Ça vous renvoie toujours à vos années d'enfance, d'adolescence ou de jeune adulte.
Ah oui, oui. Dans ce que j'ai choisi là.
Bah oui.
J'ai pas choisi une musique actuelle. Si, je crois que j'ai choisi Booba, Scarface. J'étais déjà un peu
c'est
plus
vrai.
Vieux.
C'est la seule.
J'étais déjà un peu plus vieux. Mais oui, parce que c'est des musiques qui m'ont transporté. Puis c'est des mecs qui me faisaient rêver. Moi, je rêvais des humoristes comme Gad, comme Jamel. Mais à côté de ça, les.
Ah, vous auriez aimé être un grand rappeur ou un grand rocker?
Ouais, je crois que j'aurais même préféré être un grand rocker ou un grand rappeur. Ah, c'est tellement cool. Bah, tu peux ne pas te laver les cheveux déjà. Tu peux. Non, mais tu prends ta guitare, les gens t'écoutent, tu peux être torturé, tu peux arriver sur scène avec une bière et faire. Tu vois, je sais pas, moi j'adore. Puis c'est des vrais rebelles, quoi. Et puis surtout, toutes les filles sont amoureuses.
Ah, on y revient toujours. On y revient tout.
Là, c'est Scarface qui.
Exactement.
Pour un imbécile. Je connais les paroles par cœur.
On vous découvre chanteur. Ça a été une partie de votre carrière, c'est aussi. Vrai. Est-ce que vous pourriez y revenir, faire un disque?
Bah, parfois, j'y pense parce que les gens me disent tellement ça a bercé mon enfance. Et quand est-ce que tu refais des chansons? Alors, moi, je me disais non, regardez, il y a un film, il y a un spectacle, il y a un truc. Alors, sur scène, là, dans le nouveau spectacle, j'ai rajouté une ou deux nouvelles chansons. Mais parfois, je suis tenté parce que les gens le disent tellement toute la journée. À un moment, il va falloir que je m'y remette tête.
Et tout à l'heure, vous disiez que vous n'aviez pas envie d'avoir votre Ciao Pantin au cinéma, donc un rôle dramatique au cinéma. Si vous refaites de la chanson, est-ce que vous irez sur de la chanson caricaturale un peu comme ce que vous avez fait au préalable?
Ah bah, mon rêve, ça serait. Alors je vous dis, hein, parce qu'on est entre nous, il n'y a pas genre un.
Non, personne ne nous écoute.
Mon rêve, ça aurait été de prendre une guitare et de faire des tubes sans forcément avoir de blagues dedans et faire des belles chansons.
Et bah pourquoi vous iriez pas là-dessus?
Bah parce que j'ai l'impression que les gens, ça ne fonctionnerait pas. Enfin, je sais pas, peut-être je me trompe, mais si je pouvais faire ça, je serais le plus heureux des
hommes. En fait, vous êtes un grand pudique, vous n'osez pas.
Acoustique.
Vous n'osez pas vous lâcher.
Un album de jazz. Max Boublil, son album, ça sent le four. Hein.
Est-ce que l'humour est une protection?
Bien sûr que l'humour, c'est une protection. L'humour, ça m'a toujours servi à me sortir des situations. Une question embarrassante, l'humour. Tout à l'heure, vous m'en avez... Dieu que vous m'en avez sorti des questions embarrassantes. Une fille avec qui t'es pas à l'aise, bam, l'humour, tout de suite. L'humour, je suis pas à l'aise sur scène, bam, je vais improviser avec... C'est une manière de s'en sortir. D'ailleurs, c'est souvent des mecs qui, au lycée ou au collège, étaient pas sûrs d'eux, plaisaient pas forcément aux filles, n'étaient pas les plus beaux, les plus doués en sport, c'est souvent eux qui sont devenus les drôles. C'est l'humour, il faut que ça vienne d'une espèce de faille, ça vient pas, c'est pas forcément de la mécanique, même si les Québécois font des écoles d'humour. Alors ça, je trouve ça un peu bizarre. Pour moi, l'humour, ça vient d'une faille, ça vient d'une pulsion d'exister, quoi.
On entend j'aime les moches derrière. Et oui, c'est vous, Max.
Ça me sort de mon grand discours.
L'humour toujours. Je vais vous faire écouter une chanson et on va parler d'un film.
Ça fait clic, 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 pom, pom, pom.
J'écoute avec mes filles.
Ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante.
Alors pourquoi on l'écoute? Eh bien parce que c'est une chanson qui apparaît fortement dans le film Un petit truc en plus d'Artus. Sa première réalisation est un carton. Oui. 280 000 entrées le premier jour. Ça pourrait dépasser le million ce week-end.
Incroyable.
Phénomène de cinéma. On n'avait jamais vu ça depuis Bienvenue chez les Ch'tis. Même Intouchable n'avait pas fait autant d'entrées le premier jour.
Incroyable.
Est-ce que ça vous laisse de l'espoir pour Neuilly-Poissy?
Ça nous laisse de l'espoir. Il faudrait qu'il nous laisse de l'espoir et aussi une place pour mettre quelques copies de notre film dans les cinémas. Évidemment que ça. Je connais très bien Artus, c'est un copain à moi. Je trouve qu'il a été très sincère avec cette histoire depuis le départ. C'est un petit film. Il a dû se battre pareil pour le monter. Les gens n'y croyaient pas forcément.
On va rappeler ce que c'est si jamais des auditeurs n'en avaient pas entendu parler. C'est deux cambrioleurs qui se retrouve embarqué dans une colonie pour personnes handicapées mentales. Et dans ce film, Artus fait jouer des acteurs professionnels au aux côtés de jeunes handicapés
qui
eux n'ont jamais joué. Alors lui, fin d'être handicapé, voilà, mais il est très vite démasqué. Voilà.
Moi, je trouve ça formidable. C'est un formidable espoir. C'est un formidable pied de nez au métier qui n'y croyait pas forcément. Mm-hmm. Parce qu'il a dû se battre lui aussi, comme nous. J'espère que nous aussi, on pourra être un espoir et un formidable pied de nez. Voilà, aujourd'hui. Il y a des films voilà, qui rencontrent leur public comme ça, qui sont... Moi, j'ai pas de honte à le dire quand on fait les avant-premières. C'est vrai que peut-être que à Paris, le métier nous regarde un petit peu avec une petite distance comme ça, mais quand on va en province, les gens rient énormément à Neuilly-Poissy, pareil.
Eh bien,
et je nous souhaite d'avoir au moins un dixième de son succès pour faire nous aussi un petit pied de nez au métier.
Mais visiblement, il y a de la place pour la comédie au cinéma. Ouais. Les gens ont envie de rire. Ouais. Neuilly-Poissy, c'est mercredi au cinéma avec vous, Max Boublil, avec
plein d'autres acteurs.
Gérard Darmon en rabbin, Gérard Darmon en juge. Steve Tionche, qui est votre co-détenu, Claudia Attaquebo en gardienne de prison, enfin voilà, un film choral et drôle. Merci infiniment d'être venu en parler dans ce journal inattendu. Dans un instant, vous retrouvez Laurent Deutsch, entrée dans l'histoire. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi sur RTL.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagnée.
Tout est prêt pour votre déménagement, Linda ?
Non, Cerise, j'ai oublié l'assurance habitation. Avec mon budget, je peux pas payer cher et j'ai peur de pas être bien couverte.
Chez Groupama, vous pouvez économiser en moyenne 149 euros sur votre contrat habitation et profiter des mêmes garanties.
Vous savez me parler, Cerise.
Nos conseillers aussi, et ils sont disponibles en agence à moins de 15 minutes de chez vous.
Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Économie moyenne déclarée à garantie équivalente par des clients ayant souscrit en 2022. Étude Ipsos 2023. Plus d'infos sur groupama.fr.
Mince, une fuite, en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable.
Dispositif médical.
RTL 13h30, 14h30,
entrée dans l'histoire.
Laurent Deutsch sur RTL.
Bonjour les amis. La réputation est un préjugé vain et fallacieux, souvent gagné sans mérite et perdu sans justice. C'est joli, hein ? C'est pas de moi, c'est de Shakespeare dans Othello. Mais cette citation s'applique parfaitement à l'homme en rouge, le plus célèbre de l'histoire de France, dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir le cardinal de Richelieu. De son vivant, mais surtout depuis sa mort en 1642, le principal ministre du roi Louis XIII est qualifié d'homme froid, machiavélique, cruel, vaniteux, profitant de la faiblesse du souverain pour tout manigancer. Il faut bien le reconnaître, cette légende noire doit beaucoup, bien sûr, au roman Les Trois Mousquetaires, écrit par Alexandre Dumas au milieu du 19e siècle, et dans lequel Richelieu, ses sbires et sa protégée, la fameuse Milady de Winter, font tout pour empêcher D'Artagnan et les Trois Mousquetaires de sauver l'honneur de la reine de France, Anne d'Autriche. Et il est vrai que Richelieu n'a pas fait dans la dentelle. Il déteste le désordre, et en particulier celui causé par ceux qui ne se soumettent pas à l'autorité royale. Et puis physiquement, Richelieu, c'est pas le genre rigolo. Il est toujours vêtu de son habit de cardinal, ou alors il est habillé en homme de guerre. En plus, il est grand, il est sec, il a un long visage, l'air hautain. En résumé, c'est pas le genre de type à qui t'as envie de filer une tape dans le dos. Mais Richelieu, réputé d'une intelligence rare, est aussi le promoteur d'un pouvoir royal fort à l'intérieur, mais aussi en dehors du royaume, en haussant le ton contre ses puissants voisins européens. C'est également un fin stratège, ce qui lui a valu beaucoup de jalousie. Mais c'est aussi un amoureux des arts et des lettres. Le premier journal publié en France, c'est lui. L'Académie française, c'est lui. Nous avons donc rendez-vous aujourd'hui avec un serviteur de l'État aussi autoritaire et roublard que charismatique et visionnaire. Entrez dans l'histoire de Richelieu sur RTL.
RTL, entrez dans l'histoire.
Avec Laurent Deutsch.
On peut pas dire que les fées se soient penchées sur le berceau de Armand Jean du Plessis de Richelieu. Car lorsqu'il voit le jour à Paris le 9 septembre 1585, on ne lui donne pas plus de quelques jours à vivre. Le nouveau-né est fiévreux et chétif. Le baptême est donc simplifié et le nourrisson naît condoyé. Il faudra attendre 8 mois pour que le bébé soit enfin complètement baptisé, preuve qu'il est enfin tiré d'affaire. À cette époque, le royaume de France est en très mauvais état. Le souverain s'appelle Henri III et son autorité est très fragile. Le royaume est fracturé par les guerres de religion qui n'en finissent pas, entre d'un côté les catholiques et de l'autre les protestants, que l'on appelle les huguenots. À la naissance de Richelieu, on en est déjà à la 8e guerre de religion depuis plus de 20 ans et les catholiques ont créé un parti, la Ligue. Cette Ligue est si puissante que son chef, le duc de Guise, contraint Henri III à signer un traité. Dans celui-ci, Henri III s'engage à bouter les protestants hors du royaume et à faire la guerre à l'héritier du trône, Henri de Navarre. Mais les relations vont devenir exécrables entre la Ligue catholique et Henri III. En effet, le duc de Guise et ses amis trouvent que le roi est trop tiède dans la lutte contre les protestants. Et pour eux, de toute façon, il n'est pas un vrai catholique puisqu'il est entouré d'une clique de favoris et de serviteurs, les mignons, avec lesquels il aurait des relations homosexuelles. Et tout cela finira dans un bain de sang. Le duc de Guise est assassiné sur ordre d'Henri III, qui est lui-même poignardé par un moine, Jacques Clément, en août 1589. À l'annonce de la mort du monarque, la famille de Richelieu, des nobles catholiques désargentés, sont très inquiets. Pour avoir combattu les protestants, le père d'Armand, François, soldat et grand prévôt de France, on pourrait dire en gros l'équivalent de ministre de la police, a reçu de la part d'Henri III l'évêché de Luçon. Luçon, c'est dans le Bas-Poitou, aujourd'hui en Vendée. C'est d'ailleurs le grand-oncle d'Armand, Jacques, qui occupe la charge d'évêque de Luçon. Ils sont donc très bien placés, mais que vont-ils devenir alors que c'est le protestant Henri de Navarre qui s'installe sur le trône sous le nom d'Henri IV? Les Richelieu sont partagés entre la colère, la tristesse et la peur. Un huguenot à la tête du royaume. C'est pas très catholique tout ça. Et le Bas-Poitou, lui, est un bastion de la religion catholique et donc la famille craint de voir déferler les armées d'Henri IV. Mais finalement, tout va s'arranger. Le père de Richelieu est maintenu dans ses fonctions de capitaine des gardes d'Henri IV. Hélas, ce soulagement est de courte durée, car un nouveau coup dur frappe les Richelieu. François du Plessis meurt brutalement alors qu'Armand n'a que 5 ans et la famille n'a plus de sous. Heureusement, c'est Henri IV qui va aider les Richelieu en hommage au service rendu par François du Plessis. Quelle belle preuve de réconciliation entre protestants et catholiques. À 9 ans, Armand est envoyé à Paris au Collège de Navarre, l'un des meilleurs du royaume. Il se destine à une carrière militaire et suit notamment une formation à l'Académie équestre, bien qu'avec son physique frêle et maladif, il n'a pas vraiment la carrure pour aller au combat. Mais durant cette période, il n'y a pas besoin de se battre, le royaume de France est enfin plus apaisé. Henri IV vient de se convertir au catholicisme et l'édit de Nantes en 1598 calme les esprits et ramène enfin la paix entre catholiques et protestants après 36 années de conflits et des milliers de morts. C'est dans ce contexte d'un royaume plus calme qu'en 1605, à l'âge de 20 ans, Armand abandonne du jour au lendemain le métier des armes et récupère la charge d'évêque de Luçon. C'était pas prévu, mais le frère de Richelieu refuse le poste. Et il faut bien que quelqu'un le reprenne, car c'est l'unique source de revenus de la famille. Alors, même s'il y connaît rien en matière de religion, Richelieu se met à la page et effectue des études de théologie avant de se rendre à Rome pour l'ordination. Mais il y a un problème. Oui, pour pouvoir devenir évêque, il faut avoir 26 ans. Or, Richelieu n'en a que 21. Oh bah c'est pas grave, le jeune homme présente un faux certificat de baptême. Et lorsqu'il aurait appris que Richelieu avait menti sur son âge, le pape aurait alors prophétisé « À celui-là, s'il vit longtemps, il sera un grand fourbe ». Richelieu obtient donc la charge d'évêque, mais très vite, il est gagné par l'ennui à Luçon. Il se fait chier. En plus, c'est moche. Il décrit l'évêché comme le plus vilain de France, le plus crotté et le plus désagréable. Alors là, je m'inscris en faux. Je suis allé à plusieurs reprises à Luçon et c'est charmant. En plus, comme dirait Jean-Yann, il y a une cédille, hein, et ça change tout au nom de la ville. Il va falloir attendre 1614 pour briser la monotonie de ce quotidien morose. Richelieu va aller à Paris. Oui, il vient en effet être élu député du clergé poitevin aux États généraux, une assemblée convoquée sur ordre du roi en des circonstances exceptionnelles et qui réunit les représentants des trois ordres de la société, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Les états généraux, on connaît surtout ceux convoqués en urgence par Louis XVI en 1789, car ils vont précipiter la révolution. Mais bien avant, depuis 1302, les états généraux se réunissaient régulièrement, le plus souvent en cas de guerre et pour lever des nouveaux impôts. Alors les états généraux, c'est un peu comme l'Assemblée nationale hein, pendant les débats. C'est long, c'est ennuyeux, c'est fastidieux. Mais Richelieu, qui lui rêve de faire de la politique, compte bien se faire remarquer.
La vie de Richelieu revient tout de suite dans Entrer dans l'histoire sur RTL.
Quand au au foot quand de la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la table, que mes heures se délitent. Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant. Tu es la cannelle, le piment, émerveillé, je suis l'enfant. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito. Quand je m'ennuie, que les jours perdent leur saveur, quand la vie fuit, qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant. Tu es la cannelle, le piment, émerveillé, je suis l'enfant. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito. Mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito. Tu sonrisa, mi gasolina, tu piel, mi calma. Car tu es le sel, la cannelle, le piment.
Et c'était Olivia Ruiz, Le Sel sur RTL. Le Sel qui est un extrait du tout nouvel album d'Olivia Ruiz, La Réplique.
Entrez dans l'histoire, Laurent Deutsch sur RTL.
Hello everybody, it's Ryan Gosling. J'ai eu la chance de voir le film Un petit truc en plus de mon ami Artus. J'ai rigolé énormément et c'est beaucoup de l'émotion. C'est vraiment un super film. Merci Ryan. Si comme Ryan Gosling vous voulez découvrir Un petit truc en plus, c'est en ce moment au cinéma. Je vous fais des bisous. Un petit truc en plus, un film Nutri-Score A. Attention, ce film peut contenir des traces d'Alice Belaïdi et Clovis Cornillac.
Avec RTL. RTL.
La vie claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La vie claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dont nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La vie claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur laviclaire.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Alors Chloé, ce nouveau travail?
Génial Cerise, mais j'ai beaucoup plus de trajets maintenant et mon fils est obligé de rentrer seul de l'école. Ça m'inquiète.
Grâce au système de télésurveillance Groupama, vous recevez une notification sur votre smartphone qui vous prévient dès son retour à la maison.
Ça c'est rassurant Cerise.
Oui, et en ce moment, Groupama vous offre les frais d'installation. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions variables suivant les caisses régionales participantes. Plus d'infos sur groupama.fr.
Peugeot. Nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour. On ne sait pas vous, mais chez Peugeot, on trouve que ça fait beaucoup. C'est pourquoi nous lançons le nouveau Peugeot 3008 hybride. Plus besoin de choisir entre électrique et thermique. Sobre et dynamique, il permet de rouler jusqu'à 50% du temps en électrique en ville et d'économiser jusqu'à 30% de carburant. Venez le découvrir en concession ou sur Peugeot.fr. C'est sans doute la meilleure des 35 000 décisions que vous prendrez aujourd'hui.
Suivant état de charge de batterie, style de conduite versus une motorisation thermique. Pensez à covoiturer.
RTL.
Entrez dans l'histoire de Richelieu avec Laurent Deutsch sur RTL.
Quand Richelieu arrive le 27 octobre 1614 dans sa tenue d'évêque à l'hôtel du Petit Bourbon, en face du château royal du Louvre, c'est la 33e fois que les États généraux se réunissent et il fait partie des 464 députés. Tout ce petit monde va discuter de la manière de rendre le pouvoir royal plus fort alors que le nouveau souverain, Louis XIII, n'a que 14 ans et qu'il vient tout juste d'atteindre la majorité pour gouverner. Ces États généraux vont durer près de 4 mois et dès le début, dans la grande salle du château du Louvre, Richelieu se distingue par son éloquence et la qualité de ses propos, mais surtout par son officieuse discrétion. Le jeune roi et surtout la reine-mère, Marie de Médicis, sont séduits par son charisme. L'ex-épouse d'Henri IV le convoque, convaincue que cet évêque à la robe mauve, venu de sa province lointaine et complètement paumée, va lui être très utile. En quelques mois, l'inconnu Richelieu est devenu le favori de Marie de Médicis, qui n'est officiellement plus régente, mais qui continue en réalité à gouverner. Il est alors nommé grand aumônier de la jeune reine Anne d'Autriche, qui à 14 ans vient d'épouser Louis XIII. Puis, il est nommé secrétaire d'État aux affaires étrangères. Richelieu se voit prendre du galon, mais Louis XIII va faire sa crise d'adolescence. Il déteste le favori de sa mère, Concino Concini, on dirait une recette de pâte. En fait, c'est un bellâtre italien devenu maréchal de France, et Louis XIII le fait assassiner. Peu après, le jeune roi écarte également sa mère de son entourage. Évidemment, Richelieu tombe à son tour en disgrâce et avant de suivre la reine-mère à Blois, Louis XIII lui lance d'un ton lapidaire dans les couloirs du Louvre « Me voilà délivré de votre tyrannie, monsieur de Luçon. » Richelieu est mis au placard pendant 2 ans jusqu'à ce que Marie de Médicis s'échappe de sa résidence surveillée à Blois et prenne la tête d'une rébellion aristocratique. Le duc de Luynes, favori de Louis XIII, conseille alors au roi de rappeler Richelieu de toute urgence et de le charger d'ouvrir des négociations pour réconcilier la mère et le fils. Là, je peux vous dire que la mission est très délicate. Et d'ailleurs, dans un premier temps, Richelieu échoue, car Marie de Médicis refuse toute concertation. Là, Richelieu, il a pas de peau, hein. Il est vraiment entre l'enclume et le marteau. Tu vois, c'est la position qu'il faut pas avoir. Mais lorsque la coalition qu'elle a formée avec des nobles perd contre l'armée royale sur le champ de bataille, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter les termes de la réconciliation. Richelieu revient en grâce, mais pour autant Louis XIII tarde à le faire revenir au sein de son conseil. Il se méfie de cet homme rusé, toujours très proche de sa mère, et qui en plus devient cardinal en 1622 sur décision du pape Grégoire XV. Ce n'est que 2 ans plus tard, en 1624, que Richelieu, 7 ans après en avoir été chassé, revient enfin au sein du conseil du roi. Il devient à 39 ans, le ministre numéro 1 de Louis XIII. Richelieu a un objectif, restaurer la grandeur du souverain, à la fois dans le royaume, mais aussi vis-à-vis de ses voisins trop envahissants. Pour cela, il a une feuille de route bien précise. D'abord, il veut lutter contre les Huguenots. Il n'a pas l'intention de relancer les guerres de religion ni de remettre en cause l'édit de Nantes, mais il veut restaurer l'autorité de l'État dans les places fortes protestantes qui prennent un peu trop de liberté à son goût. Ainsi, il veut s'attaquer en priorité à La Rochelle, la véritable capitale protestante du royaume. Avec 23 000 habitants, La Rochelle, c'est une des plus grandes villes du royaume de France et elle est prospère grâce au commerce. Craignant que cette cité fortifiée, cet État dans l'État, ne s'allie avec l'ennemi anglais, Richelieu fait construire une digue pour empêcher le ravitaillement de la ville par la mer et arme des navires de guerre postés sur l'île de Ré, une flotte qui se retrouve bientôt nez à nez avec l'armada anglaise. Le 10 septembre 1627, le siège de La Rochelle débute.
Nos soldats à La Rochelle n'ont ni veste ni souliers. Que voulez-vous donc, la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez? Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par milliers.
Richelieu prend le commandement des opérations. Il s'occupe de tout, jusqu'à vérifier que les soldats ont une bonne conduite et qu'ils ne passent pas leur temps à se saouler dans les estaminets et à draguer les filles. Lors des premiers affrontements, les Anglais sont rapidement vaincus. Ils reviennent une deuxième fois mais repartent aussitôt, car ils ont compris qu'ils n'ont aucune chance face aux Français. Ils tentent quand même leur chance une troisième fois, la dernière, et ils sont à nouveau battus. À présent, privés de leurs alliés, les Rochelais souffrent de la famine. Ils se nourrissent d'animaux, d'herbes, de paille, de racines. Les semaines passent et Richelieu reste intransigeant. Il déclare même « il faut fermer la porte à la pitié ». Quand les rats et les souris ont été mangés, les habitants mangent des bottes, des parchemins, du bois, du plâtre. La Rochelle, jonchée de cadavres morts de faim, finit par capituler après plus de 13 mois de siège. En 1629, l'édit d'Alès siffle la fin de la récréation pour les protestants. Si la liberté de culte est garantie, ils perdent leurs privilèges politiques et militaires. Mais si Richelieu surveille de très près les protestants, il garde aussi un œil sur les catholiques. Et il va s'emparer d'une affaire qui va défrayer la chronique, celle des possédés de Loudun.
RTL. La vie de Richelieu revient tout de suite dans Entrer dans l'histoire sur RTL.
Là, sur un bout de papier, quelques mots effacés de toi. Moi, je serai plus jamais la même. Je vais essayer quand même. Et toi? C'était vrai. Oh, je reste accroché au passé. C'est tellement dépassé. C'est n'importe quoi.
Avec deux A, je n'oublie pas, avec un seul A, sur RTL.
RTL.
Entrez dans l'histoire de Richelieu avec Laurent Deutsch sur RTL.
Au centre de l'affaire des possédés de Loudun, possédés et ES, un prêtre, Urbain Grandier, jugé par le passé pour débauche. Il est accusé par des religieuses du couvent des Ursulines de les avoir ensorcelées en leur envoyant le diable pour les amener à commettre des actes impudiques avec lui. Depuis, une dizaine de ces religieuses souffrent de crises de démence. Grandier est jugé puis acquitté, mais Richelieu profite du zèle du fidèle Jean-Martin de Laubardemont, magistrat devenu tout récemment conseiller d'État, pour instruire un nouveau procès. Et Grandier est vraiment très mal barré. car il a écrit un pamphlet contre le cardinal et il est proche des protestants. Alors, il a beau clamer son innocence, le prêtre est torturé, reconnu coupable, condamné à mort et brûlé vif. Ah oui, ça, Richelieu, quand il était blessé dans son orgueil, il pouvait devenir intraitable. Hein. Mais pour lui, rendre le royaume de France plus puissant, c'est aussi et surtout contrecarrer l'écrasante domination de la maison des Habsbourg. Cette famille possède notamment le Saint-Empire romain germanique, l'Autriche, l'Espagne, les royaumes de Naples, de Sicile, mais aussi le duché de Milan, le Portugal ou bien encore le duché de Bourgogne. Et même si vous n'êtes pas très bon en géographie, vous avez compris, le royaume de France est encerclé par les Habsbourg. Ils sont partout. Ils sont même à la cour. Louis XIII est marié à Anne d'Autriche et l'une des filles de Marie de Médicis, Élisabeth, a épousé le roi d'Espagne Philippe IV. Le ver est dans le fruit. Et les Habsbourg ont bien l'intention de mettre toute l'Europe à leurs pieds, puisqu'en plus, ils combattent les États protestants du nord de l'Europe. C'est ce qu'on appellera la guerre de 30 ans. Et c'est là que le Richelieu stratège intervient. Alors qu'il lutte contre les Huguenots dans le royaume, il suggère à Louis XIII de s'allier avec les États protestants pour donner une bonne leçon aux Habsbourg. Bien sûr, ça doit se faire le plus discrètement possible. Une alliance ouverte avec les protestants, pour un royaume très catholique, ça la fout mal. D'ailleurs, Richelieu l'écrit lui-même, « Le secret est l'âme des affaires ». Mais pour que ce plan soit validé, il faut d'abord convaincre le souverain. Pour lui, c'est une formalité. Faut dire que Louis XIII n'a aucun charisme. Avec son bégaiement, sa peur de la foule, sa santé fragile, ce souverain qui, en plus, n'a toujours pas de descendance alors qu'il a presque 30 ans, ça se demandait s'il sait comment ça fonctionne avec Anne d'Autriche, il fait vraiment pitié. Sans surprise, il suit donc une nouvelle fois son ministre sans broncher. Alors dans un premier temps, Louis XIII et Richelieu partent en Italie pour placer un proche, le duc de Nevers, à la tête d'une place stratégique pour la France, le duché de Mantoue. Dans la foulée, l'armée française s'empare de la Savoie. Et pour la première fois depuis plusieurs années, les Habsbourg sont vaincus. Mais Richelieu a un peu trop vite oublié Marie de Médicis. Ah oui, elle est toujours là. C'est une vraie dure à cuire. Elle loge dans une aile du palais du Luxembourg qu'elle a fait construire et elle a toujours de puissants relais auprès du roi. Déjà, l'édit d'Alès, qui autorise la liberté religieuse aux Huguenots, lui est resté en travers de la gorge. Mais s'opposer aux Habsbourg, avec le soutien des États protestants, c'est inacceptable pour elle. Pour l'ex-régente du royaume, c'est une trahison impardonnable de la part de celui qui lui doit toute sa carrière. Elle lui a même offert son hôtel particulier, le Petit Luxembourg, situé juste à côté du palais. Quel ingrat ce Richelieu, en plus il est même pas beau. Marie de Médicis pousse donc son fils, Louis XIII, à destituer Richelieu le plus vite possible. Louis XIII organise alors une entrevue au palais du Luxembourg le 9 novembre 1630 avec sa mère et Richelieu. Imaginez un peu l'ambiance. C'est glacial. Aussi glacial que la météo ce jour-là à Paris. Mais lors de cette rencontre et à la surprise générale, le roi maintient sa confiance en Richelieu. Marie de Médicis entre alors dans une colère noire. Elle insulte, elle hurle et elle destitue le cardinal de ses postes de surintendant de la maison de la reine et d'aumônier. Mais Richelieu, qu'on imagine alors blessé dans son orgueil, bouillonnant, ne dit pourtant rien et applique ce jour-là l'une de ses maximes favorites. Il faut écouter beaucoup et parler peu pour bien agir au gouvernement d'un État. Le lendemain, le 10 novembre, se déroule une nouvelle audience de réconciliation. Mais Marie de Médicis a ordonné la fermeture de tous les accès du palais du Luxembourg pour empêcher Richelieu d'entrer. Mais la reine-mère, et là on peut dire quand même qu'elle a été un peu con, elle oublie de faire fermer un verrou qui sépare le palais du Luxembourg avec celui du petit Luxembourg, là où Richelieu habite. C'est-à-dire c'est là où il passe, quoi. Elle a tout fermé sauf là où il passe. C'est quand même très très con. Et voilà donc le cardinal qui débarque. Sous les yeux ébahis et hallucinés de Marie de Médicis, tu vois. Elle se dit, mais c'est quoi, c'est le passe-muraille de... Bah non, Marcel Émile l'a pas encore écrit, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Elle se rend compte alors et réalise qu'elle a oublié de fermer la porte qui reliait le petit Luxembourg au palais du Luxembourg. Elle le dira d'ailleurs plus tard.
« Si je n'avais pas négligé de fermer un verrou, le cardinal était perdu. »
Ah, comme quoi, hein? À quoi ça tient une carrière?
RTL.
Dans un instant, retour d'entrée dans l'histoire de Richelieu.
Envie de parier sur le sport? Avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match, des offres qui suivent l'actualité et un bonus de bienvenue irrésistible, Winamax est le site idéal pour débuter. En live, sur tablette ou mobile, vous êtes sûr de profiter des meilleurs codes du marché.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RTL. Renault.
Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380 euros par mois et 2 mois de loyer offert.